Ah, demain, ça sera vachement mieux, enfin, beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Tu sais, Daniel, quand j'entends cette chanson-là, ça me fait des frissons tout partout parce que c'était chargé de tout ce dont l'émission évoque aujourd'hui, ton émission sur le futur du passé, le passé du futur, là, ce voyage dans le temps. C'est vraiment drôle et quand tu dis demain ça sera vachement mieux, moi immédiatement j'ai une volée de souvenirs qui me remonte là et ça fait un sacré feedback quoi. Donc un petit coucou en passant de Pascal Dumont, voilà, ciao, salut.
Oui, bonjour, il y a 68 ans, en février 1939, dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu un exode de plus de 500 000 personnes venues de l'Espagne républicaine, ou ce qu'il en restait. Ces personnes sont arrivées en France, donc, accueillies lamentablement, misérablement, dans des camps, Barcarès, Argelès, Coyours, Saint-Cyprien, Rivesaltes, Bram, Sept-Fonds, Urse, j'en passe, j'en oublie beaucoup. Et tous les ans, à la même époque, j'attends avec désespoir que les médias en parlent, les radios, France Inter y compris, et ben non, il n'y a jamais rien, on n'en parle pas, on oublie. 68 ans à l'échelle de l'histoire, c'était hier. On parle de beaucoup d'autres choses concernant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'exode des républicains espagnols, 550 000 personnes qui ont traversé les Pyrénées, ça, on n'en parle pas. On ne nous l'a pas appris dans nos manuels d'histoire de France. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on continue à vivre avec cet oubli? Est-ce que c'est volontaire? En tout cas, il y aura un sacré boulot de recherche, de mémoire à faire. Alors nous, ben, on est des particuliers, on organise une exposition à propos de ça, donc de l'exode des réfugiés espagnols. Donc ce 24 et ce 25 février, à Elne, dans les Pyrénées-Orientales, une exposition de plus de milliers de documents relatifs à cet exode, à ce drame humain sans précédent dans l'histoire moderne. Soyez les bienvenus, venez nous voir. N'oubliez pas qu'il y a eu tout ça, il y a 68 ans.
Ici Saint-Claude dans le Jura, les lycéens manifestent contre la fermeture de postes de leurs professeurs. C'était Myrti, au revoir.
Ici Béatrice. Voilà, je téléphonais, hier c'était la journée des archives et ça m'a fait repenser à une feuilleton que tu faisais qui s'appelait Ugly. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles d'Ugly, nous le repasser, ça serait très sympa. Voilà, bonne journée, au revoir.
En 1971, je passais mon diplôme d'architecte qui s'appelait l'enfant de l'an 2000 et qui reposait sur tout ce qu'on pouvait connaître à l'époque, sur une vue prospective par rapport à la situation du monde. Or, c'était quand même tout à fait dans l'esprit de ce qui s'est passé puisque je terminais cet exposé en disant qu'on allait arriver inéluctablement à une gigantesque poubelle et qu'une guerre nucléaire serait finalement du romantisme à côté de ce qui nous guette. Évidemment, l'an 2000, c'était qu'une date symbolique. C'est en fait toute notre période. Voilà. Alors, bonne journée.
Ça vous a plu? On continue. Hier, géniale journée spéciale archive sur France Inter. Et vous avez été nombreux à suivre notre futur à nous. Le futur, tout le monde était dans le passé. Et nous, on parlait du futur, mais on parlait du futur dans le passé. Tout simplement, on a essayé à travers les archives radiophoniques des années entre la Deuxième Guerre mondiale et l'an 2000 de voir comment au cours de ces années, au cours de ce demi-siècle, cette fin de 20e siècle, on voyait le futur, on voyait l'an 2000. Et on voit comment, même si ces archives sont lacunaires, les archives radiophoniques sont très lacunaires, on voit quand même malgré tout comment peu à peu, eh bien, le grand soir s'évanouit, comment le futur s'estompe, et comment peu à peu, tout ça s'aplatit un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont articulées entre les planteries formidables des futurologues, mais parfois aussi des projections et des prévisions tout à fait judicieuses, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui. On peut faire d'ailleurs un lien entre l'émission d'aujourd'hui et la Chine dont nous sommes en train de revenir. On vous proposera bientôt un long carnet de voyage à travers cette Chine. Et bien sûr, on ne manquera pas de s'étonner, comme tout le monde, de ce mariage étonnant, comme celle de la carpe et du lapin, entre ce parti communiste tout puissant en Chine et ce capitalisme tout aussi tout puissant en Chine. Et qu'est-ce qu'il y a de comme continuité à travers ce pays? Eh bien, il y a l'avenir. Le Mao Tse-tung promettait un avenir radieux aux masses chinoises. Il leur promettait la lune, jusqu'au jour où les Chinois sont aperçus que cette lune n'était jamais qu'une assiette sur un mur sombre. Mais aussitôt, un autre avenir leur a été promis, et c'était s'enrichir et glorieux. Et c'est à nouveau, c'est une autre carotte, c'est un autre horizon, c'est un autre lendemain qui chante pour des centaines de millions de Chinois. Bien sûr, la grande différence, c'est que Mao Tse-tung promettait, en principe, un enrichissement collectif, une émancipation collective. Là, cette fois-ci, ce serait plus individuel. Mais, au fond, ça revient un peu au même, c'est demain, ce sera vachement mieux. C'est ce que se disaient les Chinois d'autrefois, et c'est ce que se disent les Chinois d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que ça n'était jamais qu'une assiette collée sur un mur sombre. On y va. Après les messages que voici parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, encore un petit mot à l'auditrice qui parlait de Glee. Eh oui, Glee, c'était des histoires dans les années 83 ou 84, je crois, que je vous avais racontées avec Adèle, qui faisait la petite sœur de Glee. Eh bien, Glee, aujourd'hui, c'est un livre qui est en poche, aux éditions du Seuil, que vous pouvez trouver. Et puis, si vous allez sur là-bas.org, dans nos archives, enfin pas les nôtres, celles de notre auditeur Franck, et ben vous pouvez retrouver, récemment, on a rediffusé un numéro de Ugly. Voilà, en route.
Bonjour, le prochain rendez-vous du repère du pays de Beach aura lieu ce vendredi, à partir de 20h, au Domino's Bar de Lemberg. On parlera peut-être pas de Sarko, de Sego, ni de Bayrou, et peut-être des autres, ou de toute autre chose. Alors, on compte sur vous. C'était Jean-Paul.
Ce vendredi 23 février à 20h30 à l'hôtel de la Poste, à Nansou-Sainte-Anne, dans le Doubs, près des sources du Lison, la prochaine réunion du repère de la page J'y suis. La thématique, ce sera transport et vie en milieu rural. Bonne soirée.
1962.
Oui, un savant soviétique a déjà dressé le calendrier de la conquête de l'espace. Voici ce calendrier. 1970, conquête de la Lune. 1980, Mars et Vénus. En l'an 2000, le système solaire complet. Ce beau programme a remué, comme vous pouvez le penser, l'opinion publique américaine. La vie est ainsi faite, il y a des choses qui s'arrangent, d'autres qui ne s'arrangent pas.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. 2000, si j'y suis.
Flight number 2, arriving.
Allô, Limou.
Allô, oui.
Monsieur Dumas, avez-vous pu capter les signaux du Spoutnik 3?
Mais ma foi, oui, nous le suivons depuis son lancement, nous le suivons de très près, nous les avons, nous pouvons vous les faire entendre.
Est-ce bien la lettre L en morse, c'est-à-dire un point, un tiré, un point, un point?
Oui, enfin, ça ressemble, ça s'approche, quoi.
Effectivement. Vous pouvez nous faire entendre l'enregistrement?
Oui, on va vous le passer.
Ah, et, je ne sais pas, monsieur Dumas, vous entendez?
Oui.
Vous savez, entendu ici, ce bruit est assez curieux, assez étrange, parce que
Au fond, il n'évoque pas du tout un Spoutnik dans les cieux, mais plutôt un train rapide traversant un paysage la nuit et s'éloignant. C'est assez curieux comme bruit.
Oui, d'accord. Pour nous, naturellement, l'impression n'est pas du tout la même, d'ailleurs.
Bah oui, c'est ce qu'on appelle les analogies.
Oui, et analogies, parce que nous, suivant sur nos appareils de mesure, nous avons absolument la certitude que s'il s'agit d'un Spoutnik.
Oui, et actuellement, à votre avis, où se trouve le satellite?
Oh, en ce moment, là, je peux vous dire que dans quelques instants, c'est-à-dire à 12h47, heure locale, il va passer au nord d'Angleterre, entre l'Irlande et le nord d'Angleterre. Ensuite, il va se diriger sur Oslo, ceci à 12h47. En ce moment, naturellement, il est rendu très loin. Nous sommes... il a passé à Buenos Aires il y a très peu de temps.
Spoutnik, c'était le premier satellite artificiel qui a été mis sur orbite par les Soviétiques en octobre 1957. L'URSS se lançait ainsi dans la conquête de l'espace. C'était un grand défi technologique jeté à qui ? Eh oui, aux États-Unis. C'était le temps du futur. Nous avions alors un futur. Où est passé le futur ? Est-il mort quand les punks ont dit no future ? Est-ce que c'est vrai ? En tous les cas, c'est très très embêtant. Parce que le futur est du passé en préparation. C'est ce que disait en tout cas Pierre Dac. Et le passé ne manque pas d'avenir. C'est en tout cas ce que dit Philippe Meyer. Donc, c'est dire si l'avenir est quelque chose de très intéressant et de capital. Alors, il y a aussi que l'avenir, le futur, comme vous voulez, on ne sait pas faire autrement que d'y penser, puisque nous sommes ainsi faits, que nous sommes dotés plus ou moins d'une capacité de réfléchir. On se demande d'où on vient, on se demande où l'on est, et l'on se demande où l'on va. Vous savez ce que disait Ortega y Gasset? Ortega y Gasset disait « Qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas ce qui se passe et c'est ça qui se passe. » Eh bien, pour le futur, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas ce qui va se passer et c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que le futur en dit très très long sur notre présent. Et vous allez voir aussi comment le futur en dit très long sur le passé, au moins notre passé radiophonique. Car à travers toutes ces prévisions, plans sur la comète, prospectives, c'est en fait ces dernières 50 années radiophonique à travers lesquels passe, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non à l'époque, au moment où on le fait, bel et bien l'air du temps. Alors voilà, on va commencer par la conquête de l'espace. C'était la grande affaire, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. C'était évidemment, il faut inscrire cette conquête de l'espace dans une lutte acharnée entre les deux blocs, le soviétique et le libre, c'est-à-dire plutôt les États-Unis. Il faut bien noter qu'on disait conquête de l'espace et non pas découverte. Donc là, la première manche avait été emportée par l'URSS. Suite.
Allons vers l'an 2000, avant que l'an 2000 ne vienne à nous.
Nous vous invitons à écouter le reportage de notre correspondant spécial depuis la zone d'atterrissage des cosmonautes soviétiques Andrian Nikolaïev et Pavel Petrovitch. Nous branchons Karaganda.
Allô Moscou, ici Karaganda. L'envoyé spécial de Radio Moscou vous parle du lieu d'atterrissage des cosmonautes 3 et 4. Vous me trouverez aisément sur la carte, dans l'est de l'URSS, repéré dans le centre du Kazakhstan, un petit cercle avec l'inscription Karaganda. C'est le centre d'un riche bassin houillé. Il est peuplé de 400 000 habitants. Mais à coup sûr, ce sont les 400 000 humains parmi les plus heureux du monde. C'est près de leur ville que les deux héros cosmonautes soviétiques ont posé pied sains et saufs sur la terre natale. Et voilà comment cela s'est passé. Je suis arrivé peu avant l'atterrissage. Lorsque je volais vers cet endroit, Je scrutais avidement la Terre, je voyais courir dans le houblot la steppe grise, ravivée par la couleur bleue de la feinte, par les îlots verts des bois taillis, ronds comme des soucoupes avec la bordure blanche du sel sur les rives. Nous nous sommes posés sur une steppe plate comme une table. L'avion rola pendant quelques mètres et s'immobilisa non loin d'un bâtiment blanc à étage. C'est là que se trouve le poste de commandement de l'atterrissage. C'est de là maintenant que je vous parle. Voici l'enregistrement que je fais pendant quelques minutes avant que l'on capta du cosmos les signaux annonçant l'amorçage de la descente. Et tout de suite, les appareils télégraphiques commencèrent à ronronner. On entendait le bruit des conversations par radio et téléphone. Les responsables de l'accueil suivaient sur un immense globe terrestre les spires toujours nouvelles tracées par les cosmonautes dans le lointain de l'univers.
C'était pas seulement l'avenir dont il était question là, c'était l'avenir radieux. Vous entendez ce journaliste, il fait du journalisme que nous appelons du journalisme en couleur. C'est pas seulement du journalisme, il y a des petites fleurs autour, c'est joli, c'est le triomphe. Alors la question qui se posait alors, c'est lorsque les Russes arriveront sur la Lune, rencontreront-ils un Américain ou bien l'inverse, que lorsque les Américains arriveront sur la Lune, trouveront-ils des Soviétiques? C'était la grande question qui agitait nos confrères d'Interactualité en ce 16 avril 1962.
1962.
Une 2 chevaux grise, numéro 7203, EV72.
Interactualité. Au micro, Jean-Armand Lavidi. La vie est ainsi faite, il y a des choses qui s'arrangent, d'autres qui ne s'arrangent pas. Vous vous demandez sans doute où je veux en venir, mais à l'actualité tout simplement. À l'actualité qui est à l'image de la vie. Tenez, pour l'heure, que remarque-t-on de par le monde? Pour les choses qui s'arrangent, d'abord une affaire qui nous touche de près, reprise des relations diplomatiques entre Paris et Tunis. Dans les deux capitales, les ambassades respectives rouvrent leurs portes. Pour les choses qui ne s'arrangent pas, en Algérie, c'est toujours la chicaïa entre le bureau politique du FLN et les vilayas. Le choix des candidats aux élections du 2 septembre semble laborieux. Et puis, il y a aussi, en ce moment, les choses qui arrangent les uns, mais qui dérangent les autres. Les uns, ce sont les Russes, les autres, les Américains. Au centre de cela, évidemment, l'exploit de Nikolaïev et de Popovitch, exploit qui constitue ce soir encore l'essentiel de l'actualité. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les titres de la presse vespérale pour s'en rendre compte. Alors, c'est encore par ce sujet que nous ouvrirons notre journal. Robert West, donnez-nous tout de suite des nouvelles des deux héros soviétiques.
Eh bien, Nick et Pop ont été examinés à fond par les médecins, diagnostic favorable. Leur cœur fonctionne à merveille, la pression du sang, la respiration et tout le reste sont parfaits. Les deux hommes sont d'excellente humeur, ils ont troqué leur combinaison spatiale contre des uniformes de l'armée de l'air. On les voit en compagnie de Gagarine et de Titov, avec lesquels ils seront sans doute samedi à Moscou, pour la réception organisée en leur honneur. Les cosmonautes prendront la parole sur la place rouge, tandis que M. Khrouchtchev prononcera le discours d'usage. On a toute raison de supposer que le premier soviétique saisira cette occasion pour définir à nouveau la position de l'URSS sur les problèmes clés que sont Berlin, l'Allemagne, le désarmement, les essais nucléaires et la coexistence.
Donc, samedi, vraisemblablement, Nick et Pop vont redevenir les grandes vedettes de l'actualité. Voyons à présent les autres aspects de leur exploit, et surtout les suites. D'abord, abattus par le succès des Vostok, les Américains relèvent la tête, Moscou et Washington font des paris à l'échelle du cosmos.
Le premier homme de la Lune dans la Lune sera soviétique, prophétise le patron de la NASA, administration américaine de l'espace. Contredit d'ailleurs par le prix Nobel de physique, le professeur Teller, pour lequel les meilleurs savants sont bien à Moscou. Pour les soviétiques, pas de doute possible, quand les Américains atterriront sur la Lune, ils y rencontreront un soviétique.
Oui, un savant soviétique a déjà dressé le calendrier de la conquête de l'espace.
Voici ce calendrier, 1970, conquête de la Lune, 1980, Mars et Vénus, en l'an 2000, le système solaire complet. Ce beau programme a remué, comme vous pouvez le penser, l'opinion publique américaine.
Pour nous résumer, je crois que l'on peut dire que le succès soviétique, si désagréable qu'il soit pour les Américains, semble tout de même avoir un résultat positif. Il agit sur eux comme une sorte de stimulant. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Michel Texier, notre correspondant à Washington.
Alors la question était de savoir quand même l'homme dans tout ça. Eh bien oui, l'homme dans l'espace. L'espace est important, mais il y a quand même un bonhomme dans ces fusées. Peut-il tenir? Et puis surtout, irons-nous les Français profonds, comme on disait à l'époque, les Français moyens, avons-nous une chance d'aller un jour sur la Lune? Eh bien, à ces questions angoissantes et préoccupante et qui relève vraiment, alors là, vraiment de l'avenir de l'humanité tout entière, on répond le 14 février 1963 dans Inter Actualité.
1963.
On pense, on espère, dans un certain nombre d'années, mettons 30 ou 40 ans, si on arrive à faire la propulsion ionique, à ce moment-là, ce ne seront plus des accélérations qui seront que de l'ordre de 4 et peut-être même de 3 fois l'accélération de la pesanteur, c'est-à-dire qu'au démarrage, le démarrage se passera, j'ose pas dire gentiment, mais tout au moins sans désagrément.
Donc en l'an 2000, le Français moyen pourra très facilement, et sans aucun dommage pour lui, physiquement, voler dans une capsule spatiale.
Il est certain qu'en l'an 2000, il est probable que le sujet moyen, vous et moi, nous pourrons nous promener dans une capsule spatiale. Toutefois, je crois qu'il faut y un peut-être un petit correctif tout de même à ajouter, c'est que, vous savez, le prix extraordinaire que coûtent ces expériences d'envoi d'un sujet dans l'atmosphère, je me demande si tout en étant à la portée physique de tout le monde, ce sera à la portée pécuniaire de tout le monde, et si les promenades dans l'espace sont destinées à devenir les week-ends spatiaux comme à l'heure actuelle, nous allons nous promener au bord de la mer, si le week-end de la Pentecôte se transformera en week-end spatial en direction de la Lune, je crains tout de même que ça coûte un peu trop cher, même pas seulement pécuniairement, mais au point de vue énergétique, pour que tout de même ça vaille la peine. En ce moment, nous faisons des explorations, mais lorsque nous ne serons plus au stade d'exploration, lorsque nous serons au stade de voyage pour le plaisir, eh bien, je crois que ce ne sera tout de même pas à la portée de tout le monde.
Ça, c'est évidemment une autre question, mais si vous le voulez bien, nous pourrons en redébattre vers l'an 2000.
Alors voilà, il faudrait débattre de ces questions-là aujourd'hui. Quel tarif, quel charter pour la Lune? On a remarqué comment, après 68, le ton radiophonique a changé. Et puis comment, oh là là, l'histoire a changé. Ça, c'est les baby-boomers qui disent ça, mais les choses avaient basculé auparavant. En ce qui concerne la conquête de l'espace, voilà comment on en parlait ce 27 décembre 1968, toujours dans Interactualité, présenté par Yves Mourin.
France Inter, il est 13h. Le journal d'Interactualité, Yves Mourouzi.
À 16h29, très exactement, c'est-à-dire en définitive dans moins de 4 heures, Apollo 8 aura terminé sa mission. Après 8 jours de vol, Borman, Lovell et Anders seront ce soir à bord d'un navire américain. Ils seront chez eux. Mais auparavant, il reste à franchir le dernier obstacle le plus périlleux, celui de la rentrée dans l'atmosphère à 40 000 km à l'heure. Le monde entier vivra donc un nouveau suspense cet après-midi, un suspense plus long et plus dramatique que les précédents. Pendant 10 minutes, en effet, les communications avec la capsule seront rompues.
1969.
Bientôt, la Terre va entendre ces mots.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ici, la base de la tranquillité, l'aigle s'est posé. Tranquillité compris. Ici, on a retenu son souffle. On a été bleu de peur. Maintenant, ça va mieux. On peut à nouveau respirer. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a l'air parfait maintenant. L'alunissage en douceur a parfaitement réussi. La première chose que les premiers voyageurs de la Terre font, c'est de regarder par le hublot de leur véhicule et de raconter ce qu'ils voient sur la Lune.
Ça ressemble à peu près à tout ce qu'on peut imaginer, comme forme, angle. Les couleurs varient beaucoup. Ça dépend de la façon dont on les regarde. Il ne se dégage pas, semble-t-il, de couleurs uniformes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rochers dans cette zone et qu'ils présentent des couleurs intéressantes, du moins pour certains d'entre eux.
Quelques heures après que l'Aigle se soit posé sur la Lune, ces deux passagers sont prêts à accomplir le pas le plus important que l'homme ait jamais fait. D'abord Neil Armstrong, puis son compagnon Buzz Aldrin.
Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. L'Aigle, vous entendez, l'Aigle se posait sur la Lune. C'est même plus les États-Unis d'Amérique, c'est l'Aigle. Armstrong et Aldrin, ce jour-là, éberluaient le monde, époustouflaient les imaginaires, tandis qu'au Vietnam, la boucherie continuait. Paix au Vietnam, étions-nous en train d'hurler dans les rues, pendant que les autres regardaient cet exploit extraordinaire, et il est arrivé qu'on puisse militer pour la paix au Vietnam, tout en étant stupéfait et ravi, ébloui par cette conquête. Est-ce que c'est pas ce jour-là qu'on a perdu le futur ? C'est bien possible.
1949.
Comment travaillera-t-on en l'an 2000 ? C'est la question que nous posons ce soir, non pas à des romanciers d'anticipation, mais à des économistes, à des ingénieurs, à des savants.
Alors le travail, on va ouvrir le dossier, le chapitre travail dans un instant. Mais, on va passer par un chapitre qui a toujours préoccupé ceux qui ont pour métier de deviner le futur, de savoir ce qui va se passer. C'est évidemment la bouffe, la nourriture. Comment, à quoi ressemblera notre nourriture dans 10-20 ans et surtout en l'an 2000.
1955.
Vous prévoyez déjà dans votre livre Calmas. Deux révolutions importantes qui vont modifier complètement le visage de nos civilisations, qui sont d'une part la photosynthèse, d'autre part l'alimentation synthétique, par exemple. Oh. Bon, mais déjà ça... ça va probablement modifier le visage de nos civilisations d'une manière telle que ça ouvrira des perspectives nouvelles à d'autres inventions que nous ne soupçonnons pas, dans des domaines complètement différents.
Mais d'accord, c'est le cas typique. Par une usine différente, ce que nous mangeons sera fait dans une usine, par exemple. C'est donc une question industrielle de production en masse pour donner à un plus grand nombre d'humains
à la planète.
Mais voyez-vous, monsieur, vous faites une chose très dangereuse. La prophétie est toujours difficile.
Bah oui, mais on ne peut pas s'en empêcher. On prend beaucoup de risques, on risque surtout le ridicule, parce que dans ceux qu'on entend avec et qu'on écoute avec un petit peu d'ironie, d'abord il y en a qui se trompent pas du tout, il y en a qui ont deviné. Si d'ailleurs on faisait le bilan de tout ça aujourd'hui, peut-être que des historiens, des chercheurs pourraient le faire. Si on prenait entre les sciences exactes, les sciences nobles, et les intuitifs, les bohèmes, les poètes de la science-fiction, lesquels auraient le mieux, le plus judicieusement prévu l'avenir. Je crains fort que nos scientifiques n'aient perdu du terrain par rapport à, disons Wells, disons Jules Verne, ou bien dans un autre domaine, Orwell, qui se situait pas comme un scientifique. Les paris restent ouverts et le travail est peut-être déjà fait, peut-être qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. En tout cas, ce serait passionnant de voir comment, quel est le meilleur... Quel meilleur résultat entre ces deux façons d'aborder les choses, l'intuition et la raison.
1968.
Alors maintenant, l'alimentation. On dit que bien se nourrir, c'est maintenir sa bonne santé. Je vais me tourner vers M. Guy Dardenne, qui est directeur technique de l'Association française de chimiurgie. Tout d'abord, expliquez-nous ce mot un peu barbare.
La chimiurgie, c'est une promotion des produits agricoles par l'industrie. Aussi bien pour des produits alimentaires que pour des produits non alimentaires.
Parlons alimentation tout d'abord.
Alors pour l'alimentation, quelque chose qui peut-être pourra surprendre certains, mais je crois, et c'est ma plus profonde conviction, qu'en l'an 2000, il y aura toujours une très grande joie de vivre autour des plaisirs de la table. Je crois que c'est le postulat numéro un.
Nous le souhaitons tous.
Mais cette joie de vivre, on pourra l'obtenir grâce à des produits de plus en plus élaborés, c'est-à-dire des produits qui ont été transformés par l'industrie, produits à la fois très divers, car il y aura une multitude de technologies pour les produire, et puisque j'ai parlé de très nombreuses technologies, essayons de rejoindre avec l'alimentation un peu l'espace, on parle déjà peut-être de certains aliments qui seraient produits dans la stratosphère, dans des ballons, et qui pourraient être surgelés et déshydratés, notamment par lyophilisation, c'est-à-dire déshydratation plus surgélation, dans les couches de l'espace.
1969.
Vous savez, tout le bruit que l'on a fait autour de ce que l'on a appelé le beefsteak de pétrole, par exemple. Je crois que là, nous avons une source importante, et il se trouve que ces levures sont extrêmement riches. Elles sont les mêmes que si elles avaient été cultivées sur mélasse ou sur jus sulfité de papeterie, etc. Et qu'elles peuvent fournir pratiquement autant de protéines alimentaires que l'industrie animale actuellement. Il y a certainement sur le marché des gens qui sont disposés à acheter du beefsteak garanti végétal. Mais ça, c'est une clientèle extrêmement réduite et ça ne justifiera pas la construction d'usines importantes. Or, nous avons besoin. Pour avoir des usines importantes, il faut penser à l'alimentation du bétail. Les animaux pourront utiliser cela comme source de protéines. Et alors là, ce sera en compétition avec nos protéines fourragères.
Alors, on ne comprend pas tout ce que dit ce monsieur dans cette émission du 6 octobre 1969, mais on comprend que si l'an 2000 a une histoire, la malbouffe a une histoire, que l'agroalimentaire et la bouffe industrielle, c'est pas une chose qui vient d'apparaître, et que la vache folle et les poulets à la dioxine, ça vient de loin.
Est-ce que nous saurons encore ce que c'est que le plaisir de manger ?
Eh bien, je crois que nous sommes certainement, sinon la dernière, tout au moins une des dernières générations à avoir ce plaisir-là. Parce que si la population continue à s'accroître au même rythme qu'elle le fait actuellement, je parle de la population mondiale, il est certain qu'on ne pourra plus la nourrir avec l'agriculture. Ce ne sera plus possible, parce qu'on n'aura pas le temps d'attendre qu'une vache devienne vache. Il lui faut 3 ans pour fabriquer des beefsteaks. Il faut une saison pour attendre que pousse une salade. Donc, il faudra fabriquer la nourriture en usine, directement à partir des matières premières, c'est-à-dire directement à partir de l'air, de l'eau, de la terre, du charbon, du pétrole, tout ce que vous voudrez. Donc, on mangera des nourritures synthétiques, et nous sommes certainement les derniers à manger, à avoir le plaisir de manger une bonne côtelette ou une salade verte.
Monsieur Barjavel, qu'on entendait à l'instant, voyait les choses en noir en partant de cette mécanique qui dit « si ça continue comme ça, il est certain que ». On oublie que si ça continue comme ça, et on sait que ça ne continue jamais comme ça. Barjavel faisait partie de ces invités récurrents devant les micros de notre radio. En 1984, voilà quelqu'un qui est invité à jouer au Cassandre, c'est Jean Mallory, créateur et animateur de la collection Terre Humaine, qui lui redoute la fin du désir.
1984.
Jean Mallory.
La nourriture est l'expression même d'une civilisation et d'un peuple. Le cru et le cuit. 400 millions de secondes nous séparent de l'an 2000. Je ne vais évidemment pas faire acte de futurologue. En l'an 2000, nous connaîtrons sans doute le temps de nourriture rapide et artificielle. On connaîtra sans doute des pilules de protéines faites à partir de produits pétroliers, mais qui gagne perd. Il faudra que l'homme, le français, paye le prix de cet apparent progrès. D'abord, le français sera sans doute plus fragile dans sa constitution physique. Il subira de nouvelles maladies dites de civilisation. Faut-il prévoir, en vérité, la fin de ce qui serait l'apocalypse, la fin du désir ? Ce désir qui est vraiment le moteur de l'homme. Est-ce que la maladie des maladies de la civilisation ne serait pas l'impuissance ? Alors que restera-t-il de nos traditions, de nos recettes, d'une nourriture plus saine ? Eh bien, sera cette nourriture plus saine, l'eau pure, le pain. Le privilège de quelques-uns. L'argent pollue tout et il polluera. ira jusqu'à l'accès à l'eau pure et du pain biologique du plus grand nombre. Et les derniers seront les premiers.
La vie est ainsi faite, il y a des choses qui s'arrangent, d'autres qui ne s'arrangent pas.
C'est à peu près ce qu'on peut dire pour le futur. Ou bien ça ira en s'arrangeant, ou bien ça ira en s'aggravant. En gros, c'est ça qui ressort de tout ce travail que Guy va faire en se baladant dans les archives de l'INA pour voir comment, pour écouter comment on a parlé du futur, surtout de l'an 2000, dans les émissions de l'ORTF et de Radio France. Alors en gros, ce qu'on nous dit, c'est que l'avenir sera ce que nous en ferons. Il faudrait pas oublier quand même que nous avons un fâcheux penchant à vouloir intervenir sur le cours des choses. Fâcheux, oui, parce que c'est ce que nous pensons actuellement. Nous avons renoncé, nous sommes en train de renoncer à exercer notre liberté sur la destinée. Mais est-ce que c'est si sûr que ça ? Voilà aussi des Cassandres qui sont autour de nous dans le présent. Alors là, on va maintenant parler d'un autre domaine, c'est le travail. Comment travaillerons-nous en l'an 2000 ? Voilà ce qu'on en disait en 1949 à la radio lors d'une émission intitulée Tribune de Paris.
1949.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Né de la révolution du machinisme, le progrès technique modifie la condition ouvrière d'une manière telle qu'on peut prévoir que la vie d'un travailleur, d'ici quelques décades, n'aura plus rien de commun avec celle des hommes d'aujourd'hui. Comment travaillera-t-on en l'an 2000 ? C'est la question que nous posons ce soir, non pas à des romanciers d'anticipation, mais à des économistes, à des ingénieurs, à des savants.
Je demande simplement si on ne pourrait pas tout de suite et très rapidement orienter le débat sur, je dirais, un petit côté prédiction, un petit côté wellsien par certains aspects, d'autre côté une extrapolation de la situation actuelle ou des situations immédiatement précédentes à la nôtre, mais véritablement voir ce que sont les ouvriers dans 20 ans, dans 30 ans ou même dans 50 ans.
Bien, nous vous écoutons. Ouais.
Même s'ils seront, hein.
S'il y a des ouvriers.
Oui, Georges Friedman. Et bien, on constate que quantité de tâches qui naguère étaient globales sont maintenant parcellaires. Il s'est produit un éclatement des métiers considérable. Il y a une multiplication des manœuvres dans des dizaines de milliers et des centaines de milliers d'usines du globe. Par conséquent, on peut prévoir que cette atomisation va continuer.
Mais la pulvérisation, question, pulvérisation.
Si vous voulez, pulvérisation, si le mot atomique, ce que je comprends, vous inquiète. Eh bien, disons donc qu'il y a une pulvérisation des tâches globales, mais toutes les tâches ne peuvent pas être automatisées et sans doute ne le seront pas, la barre ne sera peut-être pas d'accord avec moi, parce que il n'est pas du tout dit que même dans 50 ans, le système nerveux de l'homme soit partout remplaçable par la cellule photoélectrique ou par ses succédanées. Par conséquent, il y aura encore, n'est-ce pas, pendant des décades, quantité d'ouvriers astreints à ce genre de tâches. Et d'autre part, il faudra également construire ces magnifiques machines qui permettent précisément la production automatique. Et bien voilà, déjà une ligne de force et j'aimerais savoir ce que mes aimables contradicteurs en pensent.
Noël Poudrou.
Le travail, le chômage, la production, le rapport entre le capital et le travail, l'intérêt que le capital peut avoir à conserver un certain volant de chômage, comme on disait, le chômage évidemment est la grande préoccupation. Voilà comment on en parlait en 1967.
Une des questions qui semble préoccuper d'ailleurs le plus les Français, c'est la question de l'emploi. Vous avez posé la question suivante, est-ce que le problème du chômage sera résolu dans les années à venir ? Et les Français ont répondu non à 72%. Monsieur Fourastier, des réflexions sur ce pourcentage élevé quand même.
Et bien sûr, seulement, ces inquiétudes-là me paraissent tout à fait légitimes, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas du tout en mesure d'affirmer que le problème du chômage sera réellement résolu d'ici l'an 2000. Certainement, on peut faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui, mais ça n'est pas sûr que l'on puisse faire la perfection, c'est-à-dire annuler complètement le chômage. La machine économique est d'une complexité dramatique, si je puis dire, et on ne peut pas garantir que d'ici 30 ans, on aura parfaitement régularisé l'emploi et écarté le chômage.
Monsieur Antoine.
Moi, j'ai une autre inquiétude, une autre inquiétude des Français qui m'a frappé, c'est l'inquiétude devant les problèmes urbains. Je rappelle d'ailleurs que la question du chômage avait été posée dans les villes. Est-ce qu'il y aura encore du chômage dans les villes, à votre avis, en l'an 2000? Or, je rapprocherais cette réponse, ce pessimisme-là, sur ce point-là, qui n'affirme pas l'optimisme général, mais qui existe, c'est une non-solution d'un certain nombre de problèmes urbains. Prenons par exemple le logement. Les Français ont l'impression que la qualité de leur logement sera améliorée, mais qu'il restera encore, au moins la moitié d'entre eux l'estime, des problèmes de quantité, et surtout que dans les grandes villes, des problèmes tels que le bruit, la pollution, par exemple, la circulation, ne seront pas résolus. Ou les rapports, par exemple, entre les jeunes et les vieux, ou par exemple aussi la délinquance juvénile. Je crois que voilà, si vous voulez, une panoplie, malheureusement, de problèmes urbains pour lesquels nous avons une affaire du travail sur à peu près une génération. Une ville ne se fait pas tout de suite.
Où est passé le futur des villes, aussi le futur de l'architecture? Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a reconstruit une grande partie de nos cités détruites par la guerre, et il y a eu tout un élan urbanistique, architectural à cette époque, évidemment avec les yeux tournés vers l'Amérique, mais il y a eu un indéniable élan à cette époque. Aujourd'hui, tout ça est bien retombé, mais avant de voir comment on parlait de la ville en 1966, je voudrais revenir un petit peu sur le travail. En 1960, il y avait 276 400 chômeurs, en 65, 316 680, en 70, 529 700, et tout ça semble être intolérable.
Signe des temps. Une émission publique de Jean-Pierre Prévost et Alfred Simon. Des spécialistes confrontent leurs opinions sur les problèmes de notre temps et répondent aux questions du public. Aujourd'hui, première émission consacrée aux cités de l'an 2000. Jean-Pierre Prévost dirige les débats.
Messieurs, je pense que nous pouvons peut-être commencer ce débat en nous posant une question préliminaire. Peut-on aujourd'hui parler des cités de l'an 2000? Je voudrais donner la parole à M. Faugeron.
On nous a dit que la population du globe allait doubler d'ici l'an 2000. Je pense que la France en aura une bonne part. Nous devons savoir que notre densité est très inférieure aux pays voisins. Et si on pense que la loi des vases communicants est également valable pour les populations, c'est un chiffre, je crois, assez important. On va voir les villes quintuplées au moins en fonction de l'exode rural. Si ces villes prennent une pareille extension, nous voyons qu'il y a matière à faire du neuf. Donc, on va abandonner les villes anciennes. Je crois que dès à présent, on peut partir sur des structures nouvelles. Or, si nous voulons avoir une efficacité, il faut grouper tous les moyens sur le même axe. C'est une moelle épinière. Je crois que si nous pensions une structure à grande efficacité, c'est la structure linéaire. Je ne suis pas le premier à en parler. Je crois que la structure linéaire est celle qui peut permettre de créer l'urbanisme à très haute densité, très grande vitesse et très grande hauteur. Or, un urbanisme linéaire qui posséderait son axe central dans un parc avec tout le monde souterrain qui permet justement une efficacité totale aurait une rive droite et une rive gauche d'environ 1 km de profondeur, ce qui permettrait une densité équivalente à celle du centre de Paris du quartier Montparnasse, mais en même temps le contact immédiat avec la campagne. Car je crois que c'est la seule alternative au monde qui se présente à nous, à savoir une espèce de cancer urbain qui va dévorer toute la surface habitable et qui ne permettra pas le rapport humain.
Je ne poserai qu'une question à M. Labordet. Alors, comment allez-vous lutter contre le radioconcentrisme, qui apparaît véritablement comme la chose la plus effroyable qui soit?
Le radioconcentrisme, c'est d'abord des doigts de gants. Et ensuite, exactement, c'est le remplissage interstices qui se trouvent entre les doigts de gants. Et pour lutter contre le radioconcentrisme, il faut d'abord, passez-moi l'expression un peu pédante, mettre en tension les zones rurales intercalaires entre les doigts de gants pour éviter qu'elles s'urbanisent.
Exactement.
1975.
Il me semble que la civilisation vers laquelle nous allons, c'est fondamentalement la civilisation du temps libre. La notion de temps libre, c'est ce qui n'est pas occupé très rigoureusement à la vie professionnelle, c'est-à-dire à l'acquisition de moyens de paiement et d'échange indispensables dans une société capitaliste. Je crois qu'il faut bien se dire que la ville de demain sera une ville habitée par des personnes qui auront 17-18 heures de liberté par jour et qu'il faut réfléchir à l'art et la manière d'organiser, en tout cas mettre à leur disposition les moyens de se réaliser, de s'épanouir, de vivre ces 17 ou ces 18 heures de temps libre.
1984.
L'usine de demain sera un prolongement des ateliers flexibles. Lorsque les robots auront véritablement la vue et le toucher, ils pourront choisir leurs pièces et les placer correctement devant les postes d'usinage et même de montage. Ce ne sera pas l'usine sans ouvriers, mais les tâches pénibles ou sans intérêt auront complètement disparu. On demandera aux hommes de travailler avec leur tête plus qu'avec leurs mains. La menace sur l'emploi est certaine, du moins pour les OS et les manœuvres. Heureusement, c'est une révolution lente qui se fera en 10 ou 20 ans. Les gens ne seront pas licenciés, mais ils ne seront pas remplacés à leur départ à la retraite. Quand on sait que la majorité des tâches menacées par les robots sont exécutées par des travailleurs immigrés, sans qualification, on voit l'ampleur de la mutation qui est engagée.
Un robot de soudure, il va remplacer un soudeur ou deux soudeurs. Mais ceux qui alimentent le robot et ceux qui sont en sortie de robot et qui prennent les pièces qui viennent d'être soudées pour les monter, au moment où le robot monte en capacité, il faut autant de gens supplémentaires en aval qu'en avant.
Jean Le Garec, administrateur CGT de la régie Renault.
Vous savez, il y a des gens qui disent au Japon on réussit parce que 90% des OS au Japon, enfin de la population, ils ont au moins le niveau du bac. Moi je dirais que dans cette usine, à Douai, il y a 42% du personnel qui sont au moins titulaires d'un CAP. Ce qui veut dire qu'il y a des possibilités qui ne sont pas toutes utilisées. Donc il y a des potentialités. Des métiers nouveaux, oui, on peut l'épuiser, y compris chez les OS qui existent aujourd'hui dans notre usine.
Par le genre de l'an 2000, je ne vous souhaite pas cette guerre civile terrible qui un jour nous arrivera.
En l'an 2000, en 2000, en 2000.
Comment on a vu l'an 2000 à la radio depuis 50 ans, la radio en l'occurrence la nôtre? On a parlé du travail, maintenant on va voir comment on a pensé le transport, le déplacement. Ça a été un grand thème, toujours un grand thème de la science-fiction, des projections sur l'avenir. Le 20e siècle sera avant tout le siècle de l'automobile. C'est une énorme mutation que celle que l'automobile a apportée. Mais en pensant à tout ce qui s'est dit et tout ce qui continuera de se dire, bien sûr, il faudrait avoir toujours présent à l'esprit le jour de fête de Jacques Tati. Vous savez, ce moment où le facteur qui fait sa petite tournée est pris par le rêve américain, par le rêve de la vitesse, de la rapidité, aller le plus vite possible nulle part.
1968.
Vous pouvez poser toutes les questions qui vous préoccupent, qui vous intéressent sur l'an 2000. Le logement, la circulation, l'alimentation, la médecine, les robots, que sais-je, bagatelle 20-40. Maintenant, je me tourne vers nos invités. Messieurs, en même temps que je vais vous présenter à nos auditeurs, je vous poserai une question. Et à tous, je poserai la même question. Cette question, la voilà. Dans votre spécialité, qu'est-ce qui étonnerait le plus un homme de 68, 69, mettons, transporté brusquement en l'an 2000. Autrement dit, supposons que je m'endorme d'un sommeil magique pendant 31 ans, je me réveille, qu'est-ce qui va me surprendre dans la spécialité qui est la vôtre? Alors maintenant, je me tourne, je vais faire le tour de cette table, je vais m'adresser à M. Pierre Delaporte, qui est ingénieur en chef des ponts et chaussées et directeur adjoint du cabinet du ministre des Transports. Lui, évidemment, c'est la circulation, les transports, toutes ces questions qui nous préoccupent déjà beaucoup, beaucoup, monsieur, n'est-ce pas, en 1968.
Bien, en matière de déplacement des hommes, je pense que vous seriez frappé en 2000 par l'égalisation des conditions de durée des déplacements. Je veux dire que, à cette époque, il est vraisemblable que traverser l'agglomération parisienne, traverser la France ou traverser l'océan Atlantique prendront à peu près le même temps. Et comme de plus ce temps sera vraisemblablement bref, que les moyens de transport auront évolué de façon économique, seront moins onéreux, la civilisation de l'an 2000 sera peut-être marquée, ou enfin les transports lui offriront la possibilité de se marquer par un mode de vie quasi nomade. Des déplacements faciles, des déplacements peu coûteux, c'est à notre sens des déplacements nombreux et un mode de vie affecté par ces facilités de communication.
On voit que ceux qui parlent depuis longtemps de la frugalité, de la lenteur, n'ont pas réussi encore à imposer leur discours. On va finir trop tôt parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres émissions qui ont été consacrées à l'an 2000 dans notre radio. Mais voilà, ça c'est quand même relativement récent, 1984, le 25 décembre, c'est toujours en fin d'année qu'on parle de l'an 2000, une émission qui s'intitulait « Dans 15 ans, l'an 2000 ».
Peut-être qu'en 2000, on commencera à développer des transports en commun par des véhicules du style navette spatiale qui pourront faire des liaisons genre Paris-New York en un quart d'heure. C'est d'ailleurs un peu ce que nous disait Patrick Baudry. Je vous laisse l'écouter.
Eh bien, je pense que d'ici l'an 2000, on verra d'autres transports supersoniques ou hypersoniques voir le jour. C'est-à-dire qu'on parlera hélas plus de Concorde. On en parlera encore, mais on ne l'utilisera plus. Mais par contre, j'espère qu'il y aura d'autres engins aussi fantastiques que Concorde pour le transport des passagers, parce que c'est bien de passagers qu'il s'agit. Également, mais alors pour après l'an 2000, je crois qu'il y aura des transports qui sortiront de l'atmosphère pour qu'on puisse avoir des vitesses quand même intéressantes, parce que finalement Mach 2, Mach 3, tout ça c'est quand même assez lent. En sortant de l'atmosphère, on pourra quand même avoir enfin des vitesses moins ridicules et aller aux États-Unis en quelques minutes. Parce que c'est absolument anormal que pour l'instant, on puisse aller de Châtelet à l'étoile en 10 minutes et avec qu'on soit obligé heures. De mettre quelques heures pour les États-Unis.
Patrick Baudry, donc, qui sera quand même le premier Français dans tout juste deux mois, en février 85, à partir dans la navette américaine. Voilà donc comment nous serons transportés dans 15 ans. Heureusement, il restera toujours les transports amoureux, plus archaïques que jamais, du moins je l'espère. Et si nous nous sommes trompés, eh bien surtout n'hésitez pas à nous rappeler à France Inter, le 25 décembre 1999, si nous sommes toujours là. Joyeux Noël, bonsoir, merci et n'oubliez pas, 15 ans, c'est vite passé.
C'était Là-bas si j'y suis. Merci à nos amis de l'INA, Catherine Louis et Catherine Denis. Archive, recherche, montage, Guy Vantil. À noter également demain soir, samedi 24 février, le cinéma Les Trois Luxembourg vous accueillera pour la nuit du film anticolonial qui se tiendra de 21h30 à 8h du matin. Vous trouverez le programme sur le site anticolonial.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Céline Bonhomme, réalisation Yann Chouquet et Koyan Guyen, assistée de Charlotte Perry, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37 ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com.
1968.
Vous pouvez poser toutes les questions qui vous préoccupent, qui vous intéressent sur l'an 2000. Le logement, la circulation, l'alimentation, la médecine, les robots, que sais-je, bagatelle 20-40.